Alors, je vous salue de la paroisse de l'Oratoire. Je fais partie du Collège des Anciens. Et puis, c'est un plaisir pour moi de vous apporter un message ce matin. Je connais Christian Cartier depuis de nombreuses années et c'est lui qui m'a demandé si je voulais un dimanche partager avec vous et j'ai accepté avec plaisir. Alors, ce matin, je vais vous parler d'un texte que vous connaissez sûrement. C'est le texte du jeune homme riche que l'on trouve dans Matthieu, Luc et Marc. J'ai intitulé mon message « Seul Dieu est bon ». Et je vais vous lire le texte biblique dans Marc, chapitre 10, les versets 7 à 27, 17 à 27, dans l'édition Second. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. » L'ayant regardé, Jésus l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Mais l'homme s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent effrayés de ce que Jésus parlait ainsi. Il reprit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans la richesse d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés et se dirent les uns aux autres, « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible. » À Dieu. Voilà donc ce jeune homme qui se prosterne devant Jésus avec cette question, que dois-je faire de bon pour hériter la vie éternelle? C'est curieux cette question sur la vie éternelle. En effet, avec tout ce qu'il sait, ce jeune homme ne devrait-il pas se sentir rassuré, tranquille, en sécurité avec cette question? Tous les rabbins devaient le considérer comme un modèle de vertu. Il est jeune, il est riche, signe de la bénédiction de Dieu à cette époque, il connaît les Écritures, et en plus, il les met en pratique. Et en plus, il est encore plein de bonne volonté pour cela. Mais il est conscient que quelque chose lui manque, et cela ne va pas de soi. Je ne le crois pas. Ce jeune homme, en fait, fait preuve de sincérité, d'humilité et de lucidité. Dans sa réponse, Jésus lui dit, « Va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Là, il est remarqué que Jésus ne lui fait aucun reproche parce qu'il est riche. Le Seigneur n'a aucun problème avec la richesse. Mais ce que le Seigneur lui demande simplement, c'est tout son cœur. D'où cette invitation à tout lâcher. Sous-entendu, si le jeune homme obéit à ce que Jésus lui demande, il trouvera ce qui lui manque, à savoir le bonheur. En y réfléchissant plus à fond, je pense que ce texte nous interpelle parce que Dieu nous, pour la place que Dieu occupe réellement dans notre vie. Dit autrement, posons-nous la question de savoir si nous plaçons notre foi totalement en Dieu ou en autre chose. Franchement, honnêtement, ne nous arrive-t-il pas de temps à autre à chercher le bonheur ailleurs qu'en Dieu? Pour nous aider dans notre introspection, revenons à la demande du jeune homme. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. » Mais il commence directement ensuite en lui faisant référence au commandement que Dieu donna à Moïse au Sinaï. Et là, c'est intéressant, car quand le jeune homme lui demande « Lequel des commandements je dois obéir ?» on pourrait s'attendre à ce que Jésus lui dise « Mais tous !» Eh bien non. Jésus lui cite que la deuxième partie des 10 commandements, ceux qui sont relatifs aux relations humaines. Regardons la réponse du jeune homme. « Maître, mais j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. » Bien sûr, si cette réponse peut nous paraître de prime abord un peu gonflée et un peu orgueilleuse, Jésus ne met pas en doute sa sincérité, car le texte précise que Jésus l'aima. Permettez-moi à ce stade d'attirer spécialement votre attention sur la tactique, sur la manière dont Jésus a de répondre à ce jeune homme. Il oublie, entre guillemets, de citer les 4 premiers commandements relatifs à Dieu, vous les connaissez, « Je suis ton Dieu », etc., qui peuvent se résumer en « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée ». Alors, pourquoi est-ce que Jésus oublie volontairement de citer ces commandements? Ben, pour faire réfléchir le jeune homme. Parce que s'il lui avait donné les premiers commandements, le jeune homme aurait pu dire, ben, c'est parce que je respecte ces premiers commandements relatifs à Dieu que je prends du temps pour aider les prochains qui sont autour de moi. Pour faire réfléchir ce jeune homme, et le premier enseignement que Dieu essaye de donner au jeune homme, c'est de lui dire « Là où est ton cœur, là est ton Dieu. » Mais Jésus va amener ce jeune homme sympathique à découvrir en fait qu'il a un autre Dieu que le vrai Dieu et que cet autre Dieu est l'argent dont il ne peut se séparer. En demandant maintenant au jeune homme de vendre tous ses biens et d'en distribuer le produit aux pauvres, Jésus lui fait réaliser qu'il aime plus son argent que le vrai Dieu et qu'il n'est pas aussi parfait qu'il le croit. Regardez la subtilité de Jésus. Il n'a pas d'emblée, du haut de son savoir, du haut de sa connaissance, du haut de son autorité, ciblé les mots sur le problème du jeune homme. S'il l'avait fait, ça aurait certainement eu comme résultat de refermer le jeune homme sur lui-même comme une huître, ne voulant plus en entendre davantage, et elle serait partie. Mais Jésus n'a pas fait comme ça. Mais il a tout à fait compris le problème, parce que le jeune homme ne peut pas dire qu'il n'a pas compris, puisque ses conclusions se sont imposées d'elles-mêmes à son esprit, il est reparti tout triste, nous dit le texte. Inconsciemment, le jeune homme a fait de son argent son idole, devant laquelle il se prosterne toutes les fois où il met en lui sa sécurité et sa confiance et son identité en lui. Une idole devant laquelle il se prosterne toutes les fois qu'il fait l'aumône aux pauvres et en tire une satisfaction, un bonheur ou une gloire personnelle. Ce qui lui manque, c'est de ne pas mettre Dieu en premier. Un autre point à remarquer, c'est que Jésus ne lui a pas couru après pour essayer de le retenir quand il est parti. Il l'a laissé aller. Jésus considère ses interlocuteurs comme des adultes capables de saisir tout seuls et de trouver en eux les réponses aux questions posées. Dit comme ça, bien sûr, ça semble évident. Mais c'est très important. Jésus nous renvoie à nous-mêmes. C'est à chacun d'entre nous de faire le chemin. Personne ne peut le faire à notre place. Nous sommes responsables de nos décisions et de nos choix. Vous connaissez sûrement ce fameux verset de l'Apocalypse. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » C'est Jésus qui parle. « Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. » Et lui avec moi. Ni le Seigneur, ni personne n'ouvrira la porte excepté la personne concernée. Et je crois que nous avons énormément à recevoir de cette pratique pédagogique. Dernièrement, j'ai lisé un livre qui traitait de l'évangélisation et j'ai été attiré par une citation que j'ai beaucoup aimée, qui dit « Contentons-nous de faire réfléchir et cessons de chercher à convaincre. » Ouh, vous allez dire, encore une magnifique citation. Et à quoi ça sert, puisque ce jeune homme ne s'est même pas laissé convaincre, lui qui semblait avoir de tellement bonnes dispositions? Les arguments de Jésus étaient-ils insuffisants? En fait, la réponse est à la fois simple et, comme souvent en théologie, pas si simple. D'une part, nous venons de voir que chacun a la liberté de choix. Mais d'autre part, si la personne choisie, décide, accepte de se tourner vers le Seigneur, eh bien c'est le Saint-Esprit qui convainc. À l'instant où nous acceptons d'ouvrir notre porte au Seigneur, le Saint-Esprit vient en nous, va nous convaincre que nous sommes pécheurs, va nous pousser à la repentance, nous aider à grandir dans la foi, petit à petit, et pour devenir une pierre vivante de l'Église du Christ. Et ça, c'est un principe. Si, c'est la même chose pour le pardon. Si quelqu'un vous a fait un tort énorme, vous êtes fâché contre lui. Et puis que vous n'arrivez pas à pardonner, vous prenez la décision, vous priez, vous dites « Seigneur, j'ai décidé à pardonner à tel et tel, mais je n'y arrive pas, aide-moi. » Le Saint-Esprit, du moment que vous avez pris cette décision, va venir vous aider, va vous travailler de l'intérieur. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais vous arriverez à lui pardonner. Mais c'est vous, le Seigneur ne nous oblige jamais à prendre une décision. Rappelez-vous, Jésus a commencé son dialogue avec le jeune homme en disant « Dieu seul est bon ». Si nous croyons cette vérité absolue, si nous lui faisons confiance, en lui apportant tout ce que nous avons sur le cœur, nous verrons alors la bonté de Dieu agir dans nos vies. Nous vivrons heureux. Mais alors posons-nous la question pour vivre heureux. Qu'est-ce que le bonheur? Qu'est-ce que le bonheur? Le bonheur, pour la Bible, est cet état intérieur donné par le Saint-Esprit qui nous garde dans la paix de Dieu indépendamment des circonstances. Et c'est cette vie éternelle, cette vie avec Dieu, cette vie en Dieu, ça, c'est le bonheur. Et il y a un magnifique témoignage et sermon de Jésus dans la Bible. C'est le sermon des Béatitudes dans le Matthieu 5 qui explique cela, mais je n'ai pas le temps de le développer maintenant. Mais ce bonheur, c'est vraiment est donné par le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Et comme toujours, face aux vérités bibliques, nous avons le choix entre croire, ne pas y croire, ne plus y croire totalement ou seulement sporadiquement quand il n'y a plus d'autre issue. En fait, tout cela pour arriver à quoi? Sur quoi est-ce que je bâtis ma vie? Voilà la question qui nous est posée derrière tout cela. Il y a des choses qui ont tellement de place. Y a-t-il des choses qui ont tellement de place dans ma vie que je ne pourrais pas m'en passer parce que toute mon identité dépend d'elle, parce que je serais perdu sans elle? En quoi est-ce que je mets mon espoir, ma sécurité, ma confiance? Qui est mon sauveur? À cela, nous répondrons, bien sûr, nous qui sommes chrétiens, nous l'avons vu tout à l'heure, mais Jésus-Christ, bien sûr, bien entendu. Eh bien, nous serions bien étonnés de voir que bien des choses autour de nous peuvent prendre ce rôle et le prennent dans notre société et dans nos vies. Un métier, par exemple, qui me permet de m'affirmer, qui me donne mon identité, prouver mes compétences, d'user de mon autorité. Le désir de succès qui me place au-dessus des lamellés, la richesse et sa sécurité qu'elle me procure, la reconnaissance des pères qui me réconforte et m'encourage, l'argent et son pouvoir qu'il me donne. Mais ça peut être aussi une certaine conception de l'amour et des relations, un idéal politique, ça peut être le confort, Ça peut être le sport, ça peut être mon smartphone, ça peut être mes réseaux sociaux. Ce ne sont pas des mauvaises choses en soi, attention, bien sûr que non. C'est justement parce qu'elles sont bonnes que nous aurons tendance à croire qu'elles peuvent nous satisfaire pleinement. Elles peuvent devenir comme des dieux si au lieu de s'en réjouir et d'en profiter et de remercier le Seigneur des bénédictions qu'il permet que nous puissions en profiter, elles deviennent indispensables pour que notre vie vaille la peine d'être vécue ou pour qu'on se sente en sécurité. On les aimera, on fera tout pour les avoir et surtout tout pour ne pas les perdre, quel qu'en soit le prix, quitte à se laisser asservir par la jalousie, par la convoitise, peut-être par la colère, la violence verbale ou physique. Pour conclure, je dirais que Dieu, heureusement, n'a pas dit son dernier mot. Face à l'argent, mais aussi à toutes ces choses terrestres que nous venons de voir, qui peuvent fasciner notre cœur et finalement nous faire du mal, Jésus nous appelle. Il nous appelle à lui de cette façon radicale. Et vous avez vu dans le texte, vends tout ce que tu as et suis-moi. Jésus nous invite à le suivre. Oui, laissons tomber nos petits dieux auxquels nous accrochons si souvent en tant que chrétiens. Décidons résolument d'entrer dans la présence du Christ pour connaître le vrai bonheur en vivant l'Évangile et en servant notre Dieu dans le monde, auprès des pauvres, des souffrants, des malheureux, dans l'Église, auprès de nos frères et sœurs dans la communion fraternelle, et dans nos familles, en nous aimant, en nous respectant, en nous honorant et en nous écoutant. En suivant Christ dans les petites comme dans les grandes choses de notre vie, n'oubliez pas, il est le Dieu au-dessus de tous les autres. Il nous appelle à le laisser être notre sauveur dans tous les domaines de notre vie. Il nous appelle à lui remettre nos rêves, nos besoins, nos désirs, mais aussi nos peurs, nos combats, nos angoisses, à faire de lui notre secours, à placer en lui notre confiance. Oui, le Seigneur nous invite à tout lui donner, même les choses que nous tenons bien serrées dans nos mains, sur notre cœur, parce que nous avons l'impression que notre valeur en dépend, parce que nous cherchons en elle notre sécurité, notre façon d'être, notre identité, parce que notre cœur y est trop attaché. Le Seigneur nous aime, il nous pardonne nos fautes. Confessons-lui notre péché d'incrédulité chaque fois que nous cherchons hors de lui notre sécurité. Et c'est cela qui nous éloigne de lui. Ses promesses sont pour notre vie toujours vraies. Écoutez ce que le Saint-Esprit inspirait 700 ans avant la venue de Jésus à Ésaïe en parlant de Jésus. Il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Mais que voulons-nous de plus? Lui seul peut nous satisfaire pleinement et nous rendre libres. Oui, les amis, par la foi, nous sommes libres, libres de l'esclavage du péché, libres de l'esclavage de nos petits dieux, libres de l'esclavage du monde des ténèbres. Et s'il nous arrivait de dire, comme l'ont fait les disciples, « Oh là, mais c'est trop dur de tout lâcher. C'est aussi impossible qu'un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille. » Faisons silence, tendons l'oreille, écoutons la petite voix à l'intérieur qui a des fois tellement de peine à percer dans le monde dans lequel nous vivons. Écoutons cette petite voix qui nous dit « Tout est possible à Dieu, tout est grâce. Peux-tu croire cela ?» Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta patience. Seigneur, je te remercie parce que tu es près de nous. Aide-nous par ton esprit à nous aider, à nous tourner vers toi pour tout, à te faire confiance pour tout. Seigneur, tu es notre sauveur, notre libérateur. Et Seigneur, je te remercie de ta parole qui nous permet de nous tourner vers toi et pardonne-nous trop souvent de nous en éloigner. Seigneur, je te demande ce matin que par la présence du Saint-Esprit en chacun d'entre nous et dans les jours qui viennent, tu nous montres toutes ces petites choses qui sont si anodines, et qui prennent tellement d'importance dans nos vies, qui bien souvent nous te reléguons à la deuxième place. Seigneur, aide-nous à nous les montrer et pardonne-nous et aide-nous à marcher avec toi dans le nom puissant de Jésus. Amen. Christian m'a demandé de vous préparer quelques questions. Attendez, il faut que je retrouve mes feuilles parce que là, tout à coup, il y a... Voilà. Voilà. Alors, je vous ai préparé une ou deux questions. Je ne sais pas, vous... Une qui sont... Vous allez, je pense, bien sûr, imaginer laquelle. C'est une question facile. La première question, y a-t-il dans ma vie des choses terrestres, des choses d'en bas, qui prennent trop de place, des choses qui dictent leur loi dans ma vie? La première question. La deuxième question, y a-t-il dans mon église des choses terrestres, des choses d'en bas, qui prennent trop de place, des choses qui dictent leur loi dans mon église. J'ai encore une question. Dans le texte que je viens de vous lire, il y a en fait deux enseignements. Le premier, je vous l'ai donné, c'est que j'ai intitulé « Où est ton cœur? Là où est ton cœur, là est ton Dieu ». Mais il y a un deuxième enseignement que je vous laisse découvrir et que je vous laisse aussi trouver le titre de ce deuxième enseignement. Et puis pour les personnes qui aiment lire la Bible et chercher dans leur Bible, j'ai une question pour eux. Nous venons de voir que Jésus a confronté le jeune homme riche de telle manière que ce dernier trouve de lui-même son problème, à savoir dans ce cas particulier, qu'il met sa confiance, son amour, son bonheur en argent plus qu'en Dieu, dans son argent plus qu'en Dieu. Manière de faire qui peut se résumer par la citation que je vous ai lue tout à l'heure, contentons-nous de faire réfléchir et cessons de chercher à convaincre. Trouvez dans d'autres passages de la Bible où ce même principe est utilisé. Réfléchissez à des passages que vous connaissez, mais pour vous aider, je vais vous donner deux lectures dans lesquelles ce principe existe. Si vous lisez dans Genèse, chapitres 1 à 3, vous trouverez ce principe. Si vous lisez dans 2 Samuel, chapitres 11 et 12, vous trouverez aussi ce procédé. Cherchez-en d'autres, parce qu'il y en a d'autres. Et surtout, soyez attentifs aux résultats que cela produit sur la personne concernée. Voilà, les amis. Je vous souhaite un excellent dimanche et soyez bénis. Amen.